Cours de métaphysique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 14 octobre 1992.
Essayons de comprendre dans la pensée philosophique comment la philosophie première apparaît. De fait, si je regarde selon l'ordre historique, la philosophie apparaît avec la recherche de la vérité. C'est comme ça qu'on considère aujourd'hui que Hésiode est le premier philosophe grec, européen. Parce que, au-delà de la poésie, il recherche le point de vue de la vérité. Au-delà de l'accumulation des diverses traditions religieuses, il recherche à ordonner. Je crois qu'il y aura toujours ces deux aspects, recherche de la vérité et ordonner. Le propre du sage, c'est d'ordonner. La recherche de la vérité étant quelque chose de plus radical et l'ordre étant en quelque sorte le fruit de cette recherche de la vérité. On ne peut pas ordonner une recherche intellectuelle, une recherche de l'esprit sans la recherche de la vérité. Il faut de fait attendre Aristote pour que la philosophie première émerge. Chez Platon, la dialectique est scientifique. Elle est la philosophie. Platon ne parle pas de métaphysique et de philosophie première. Parle uniquement de dialectique. Et la pensée de Platon, vous savez bien, ne se fonde pas sur l'expérience, mais sur la connaissance des formes en soi. Je prends Platon parce que c'est quand même le premier grand philosophe qui donne toute une synthèse. Avant lui, il y avait bien Parménide, qui lui découvre, il est, grâce à une révélation, à la révélation de la déesse. Il est nécessaire qu'il soit. La connaissance de l'être. De l'être premier. C'est du reste ceci très intéressant à noter. C'est l'être premier. Il est nécessaire qu'il soit. Et dans cet être premier, identité entre l'être, la pensée et le dire. Le to einein. Noéen et le to legein, être, penser et dire s'identifient. Et c'est cela qu'il considère comme étant la vérité toute ronde. Donc, la vérité totale. et les déesses. Alors on pourrait dire que la théologie est parue avant la philosophie première. C'est la théologie, si on prend le terme qu'on dirait aujourd'hui, c'est la théologie. Regard sur l'être premier, sur l'être nécessaire.
Là, on
avons saisi trois moments très importants dans la pensée grecque. Parménide, Platon, Aristote. Et c'est à partir de cette distinction du nécessaire et du corruptible, du nécessaire et également du corruptible chez Platon, que le problème d'une connaissance ou d'une contemplation au-delà du devenir apparaît. Aristote creuse, et pour lui, ce n'est pas à partir du nécessaire qu'on découvre le corruptible. Ce n'est pas à partir de la forme en soi qu'on découvre le monde sensible. C'est l'inverse. Ce sont les réalités que j'expérimente. Je n'ai jamais expérimenté le nécessaire. Je n'ai jamais touché le nécessaire. Vous seriez foudroyé. Électrique. Si on touche, on est foudroyé. Vous n'avez jamais touché le nécessaire. Vous n'avez jamais expérimenté le nécessaire. Vous ne seriez pas ici. Vous avez expérimenté des êtres en devenir. Des êtres relatifs. Toutes vos expériences vous laissent dans le relatif, dans le contingent, dans le corruptif. Et c'est à partir de cette expérience du corruptible qu'Aristote atteint ce qui est comme être. C'est un progrès fantastique au point de vue de la pensée. Parce qu'on passe du domaine de la description, si belle qu'elle soit, au domaine de l'analyse. La dialectique n'est pas une analyse. La dialectique est un mouvement de l'intelligence qui reste une description dans le nécessaire. Ce n'est ni une expérience, ni une analyse. C'est l'expérience qui réclame l'analyse. Et c'est avec Aristote que pour la première fois, l'intelligence passe du contact, du devenir, d'une réalité qui est mue, une réalité corruptible parce qu'elle est mue, à la saisie de ce qui est. Je crois que c'est là où on voit la naissance de ce qu'on a appelé métaphysique et de ce qu'Aristote appelle philosophie première. C'est pour ça qu'aujourd'hui, appelons cela philosophie première. C'est plus vrai. Parce que métaphysique, c'est terriblement équivoque. C'est un terme qui ne reste pas très noble, puisque c'est tout simplement les bibliothécaires qui, après avoir rangé les livres de la physique, ont dit qu'il y a des livres qui sont après. immédiatement humain. Parce qu'Aristote reconnaît que la philosophie première, c'est quelque chose de divin. C'est pas humain. Et je crois que c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce qui est humain ? C'est l'éthique. C'est la philosophie de l'art et l'éthique. Et la philosophie politique. Ça, c'est humain. Et ces trois philosophies éthiques, philosophie du facere, de la réalisation artistique, et la philosophie politique, sont des philosophies humaines. Où l'on reste dans l'opération humaine, l'opération volontaire. Et ceci est premier. Et je crois qu'il faut le maintenir comme quelque chose de premier, contrairement à la scolastique décadente, qui considère que la connaissance spéculative est première. Pratique est une application de la connaissance spéculative aux pratiques. Et le père Carico-Lagrange, si grand qu'il soit, continue de dire ça. Il a continué de dire ça. Dans le ciel, je crois qu'il ne continue plus de le dire. Il doit y avoir une purification radicale. Et c'est très intéressant de voir ça, parce que c'est quelque chose de capital de comprendre que la philosophie commence par une réflexion sur l'activité artistique, sur l'activité éthique et sur l'activité politique. On a un triangle de base auprès de la philosophie auquel il faut tout le temps revenir. Le philosophe revient toujours à l'éthique. Le philosophe revient toujours à l'étude du travail. Le philosophe revient toujours à l'étude politique. Ces trois sont indispensables. C'est quelque chose d'absolument nécessaire. Comme philosophie fondamentale. À partir de là, Aristote reconnaît une recherche du nécessaire. Rechercher pour lui-même. Une recherche de la vérité pour elle-même. Et c'est du côté de la finalité de la recherche de la vérité que se fait la distinction entre une philosophie pratique et philosophie dite spéculative, dite contemplative. Il y a une distinction qui se fait, j'allais dire, du fait même qu'on a découvert la différence entre le devenir et l'être. Une distinction qu'Aristote fait, que Platon n'avait pas faite, que Socrate n'avait pas faite. Une distinction extrêmement importante pour comprendre les exigences de la vie de l'intelligence. L'intelligence ne peut pas s'arrêter à une philosophie pratique. Et alors, ça, cherchez-le vous-même. Posez-vous cette question, est-ce que l'intelligence, mon intelligence, peut s'arrêter à une philosophie pratique ? Ou est-ce que je suis obligé d'aller plus loin ? Pour nous, aujourd'hui, le développement des mathématiques, qui déjà chez Aristote avait commandé ce dépassement, très curieux, le rôle des mathématiques en philosophie. Le rôle des mathématiques, j'allais dire, dans la pensée philosophique. Très intéressant à regarder. On le voit, pour lui, les mathématiques sont un moment absolument. puisque on dépasse le sensible immédiat, tout en demeurant dans le divisible, et on a une philosophie des possibles. Donc, on a une philosophie des hypothèses. La philosophie des hypothèses est la recherche de la nécessité dans l'hypothèse. C'est ça qui est très astucieux en mathématiques. On recherche le nécessaire dans l'hypothétique. L'hypothétique peut être nécessaire. Et c'est propre de ce domaine mathématique. La naissance des mathématiques était antérieure à la philosophie, il ne faut pas l'oublier. Comme la naissance de l'art est antérieure à la philosophie. La philosophie vient après les mathématiques, après les techniques, après l'art, après la vie politique. Tout ça existe avant. Et la philosophie apparaît comme une réflexion sur ses grandes activités humaines et une mise en ordre de ses activités. Et la grande mise en ordre des activités humaines, c'est comprendre qu'il y a deux manières de rechercher la vérité. On recherche la vérité à l'intérieur de mon action. On recherche la vérité pour elle-même. Et c'est ça la grande trouvaille d'Aristote. La recherche de la vérité pour elle-même. Ce qu'on a appelé la connaissance spéculative. Ce qu'on a appelé la philosophie spéculative. Et Aristote, pour justifier cette recherche de la connaissance spéculative pour elle-même, dit tout simplement, on aime de voir. L'amour de voir, ça c'est tellement grec, montre qu'il y a une finalité dans la connaissance. La connaissance peut se finaliser elle-même. Et c'est quand même quelque chose de très important de découvrir ça. La connaissance peut se finaliser pour elle-même. La recherche de la vérité suffit. Il suffit de rechercher la vérité. Oui, chez Platon, on n'a pas ça. Et c'est ce qui explique comment Platon, de fait, recherche au-delà de l'être l'un, le bien et l'un. Alors ça, ce serait aussi très important de voir que ce dépassement qu'il fait de la philosophie, de la recherche de l'être, pour aboutir à la recherche du bien et de l'un, montre que pour Platon, la recherche de la vérité pour la vérité n'est pas suffisante. Passer ce point de vue de la recherche du pur intelligible. Aristote, face à Platon, découvre que la recherche de l'être comme tel suffit pour la connaissance, pas pour l'homme. Et donc il fait cette distinction que chez Platon on n'avait pas. Distinction entre connaissance et homme. Parce que je crois que l'erreur fondamentale de Platon, c'est d'identifier l'erreur ou la confusion, disons, le manque de distinction. C'est de confondre connaissance et finalité humaine. La finalité de la connaissance n'est pas la finalité de l'homme. Et cela, c'est la grande découverte d'Aristote. Et à partir de ce moment-là, on peut parler d'une connaissance spéculative qui recherche la vérité pour elle-même. Et cette vérité qu'on recherche pour elle-même n'est pas, au sens absolu, la finalité de l'homme. Ça, c'est pas commode à comprendre. parce que la finalité de l'homme sera l'amitié et la contemplation. La contemplation, c'est le bonheur de l'homme. Ce n'est plus la recherche de la vérité pour la vérité. Ça l'implique, mais ça va plus loin. Alors, est-ce que toute pensée dialectique n'implique-t-elle pas confusion entre la finalité de l'homme et la finalité de la pensée? Je me pose la question. Il faut vous poser des questions pour avancer. Ne prenez pas seulement les conclusions. Votre intelligence devient philosophique dans la mesure où elle recherche. Si vous ne regardez que les conclusions, vous n'avancerez jamais très loin. Vous resterez dans la logique. Et il faut se poser ces questions, et se poser ces questions à partir de nos expériences, à partir de notre vie, et à partir des grands philosophes comme Platon et Aristote, et Hegel de notre temps. Parce que pratiquement, vous en avez trois. Entre deux, vous pouvez mettre Plotin. Mais Plotin n'est pas, au fond, original. L'originalité, c'est Platon, Aristote, Hegel. C'est les trois grands. Descartes n'est pas original. Kant n'est pas original. Il faut saisir ce qu'il y a de nouveau dans Platon, dans Aristote, dans Hegel. Trois grands, si vous voulez. Et à ce point de vue-là, c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, Descartes est d'une certaine manière celui qui conduit à Hegel. C'est vrai. Donc à ce point de vue-là, il y a quelque chose d'original chez lui. Mais ce n'est pas très poussé. Les disciples de Descartes aboutissent à un primat de la logique. Comme les disciples d'Occam. Alors on pourrait mettre, vous voyez, ceux qui ne sont plus tout à fait les grands et qui restent au niveau logique. Parce que la logique, c'est tellement d'humain. C'est le rationnel. Le rationnel pur, c'est la logique. Où on reste en face de ce que l'intelligence humaine est capable de réaliser, l'être de raison. Tandis que Platon, Aristote, Hegel ne regardent pas l'être de raison. Il y a quelque chose de très particulier chez ces trois. Je ne les situe pas au même niveau, c'est évident. Je ne regarde pas un ordre génétique en disant que le dernier est plus grand que les deux autres. Mais d'une certaine manière, on trouve dans l'hégélianisme quelque chose d'analogue à Aristote et Platon. Une philosophie qui, au point de vue d'une synthèse, au point de vue d'une recherche, a quelque chose de génial. Il y a un génie chez Platon, on ne peut pas nier. Il faut l'aimer. C'est génial, Platon. On ne peut jamais le quitter complètement. Aristote, c'est génial, d'une autre manière. Et Hegel, c'est génial, d'une autre manière. C'est pour ça que c'est les trois grands qui, de fait, ont eu la plus grande influence. C'est assez net comme influence. Descartes a eu une très grande influence, c'est sûr, sur l'Europe. On pourrait dire que c'est le philosophe de l'Europe qui se replie sur elle-même, se croyant le nombril du monde. Ça, c'est vrai. Tandis qu'il y a un éclatement chez Platon, Aristote et Hegel. L'éclatement est beaucoup plus grand chez Platon et chez Aristote que chez Hegel. Hegel, forcément, petit-fils de Descartes. C'est pas commun de dépasser l'Europe. C'est pour ça qu'il nous recentre la Prusse. Et c'est dans ce sens-là qu'il est terriblement européen. Et que l'Europe qui se fait après Hegel revient à ça. C'est curieux, ces choses-là. C'est là où on voit combien la pensée joue. Alors, comprenez que le sommet de la pensée grecque, c'est la découverte chez Aristote de la philosophie première. Et ce sommet, comme tout sommet, il ne se maintient pas. Immédiatement après Aristote, on retombe dans une éthique qui se veut première. Et on découvre chez Plotin, il faut bien comprendre, on découvre chez Plotin quelque chose de très particulier, qui est une sorte de mystique introduite dans la philosophie. Alors qu'est-ce que ça représente, ça? C'est qu'on veut que la philosophie soit notre vie et que notre vie soit philosophique. Donc on redécouvre le défaut antérieur à Aristote qui devient postérieur à Aristote et donc beaucoup plus condamnable de considérer que la finalité de la pensée, c'est la finalité de l'homme. Alors d'une façon très différente, je crois qu'avant Aristote, l'homme se ramène à la connaissance. Après Aristote, c'est la connaissance qui se ramène à la finalité humaine. Vous voyez, la mystique peut s'entendre de deux manières. Parce qu'on ne peut pas nier que Plotin, c'est une philosophie mystique. Mais dans une philosophie mystique, au mauvais sens du mot, c'est que la connaissance meurt pour l'homme. Et on ne reconnaît pas qu'il y a dans la connaissance spéculative quelque chose qui dépasse l'homme. Et je crois qu'on retrouve quelque chose, du reste c'est normal, quelque chose d'analogue à Platon, puisque Plotin considère que Platon, c'est la révélation. Pour Plotin, Platon, c'est le divin Platon. C'est la révélation. Mais il faut tout le temps revenir à cette philosophie grecque, surtout aujourd'hui. Et Heidegger a raison de considérer que dans les moments de crise, on revient à quelque chose qui est très fondamental et qui nous aide à penser. Le bon père Ramirez, dominicain, me disait, après la philosophie grecque, il n'y a aucune découverte d'un nouveau principe. Donc, elle ne nous apprend rien. C'est terrible de dire ça, mais je crois que c'est vrai. La philosophie grecque nous a donné la découverte des principes propres de l'intelligence. Après la philosophie grecque, on retrouve les théologiens. Et ce qu'il y a de très beau chez les théologiens, les pères de l'Église, les apologètes et les théologiens, donc du 1er siècle au 12e siècle, 13e siècle, il y a une grande montée d'une recherche de la philosophie au service de la foi. Ces pères de l'Église, ces apologètes, ces théologiens n'ont aucun désir de faire une nouvelle philosophie. Ça, c'est le désir moderne. Donc quand on projette sur saint Thomas, Non. Le philosophe est serviteur de la vérité. Et donc il entre dans cette grande recherche de la vérité. Et il essaie de préciser certains points qui ont été cachés, gommés, à travers certaines fausses traditions. Parce qu'il y a les vraies traditions et les fausses traditions. Les déviations, quand elles durent trop longtemps, deviennent l'itinéraire normal. Et les déviations, quand elles sont le poids de la tradition, devient l'itinéraire normal. On a toujours fait comme ça, de mémoire d'âne. Et on ne critique pas, parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Le moine, c'est celui qui mange avec une cuillère en bois. C'est la définition du moine. S'il n'a pas une cuillère en bois, il n'est pas un moine, puisqu'il se modernise avec une cuillère. La culture japonaise ou chinoise, c'est de manger avec des bâtons. Si je prends une fourchette, je ne suis plus chinois. Et c'est très typique, ces choses-là. C'est ça que j'appelle des déviations. Et l'homme est friand de ça. Quand il n'a pas découvert la finalité. Quand il a découvert la finalité, il en rit. Il s'appuie là-dessus. C'est capital. Si vous quittez ça, ça va plus du tout. Aucun grand théologien n'a cherché une nouvelle philosophie. Il a puisé dans le trésor grec. Donc, pas de nouvelle métaphysique. Pas de nouvelle philosophie première. Absolument pas. Mais une nouvelle théologie. Une théologie. Alors là, oui. Une théologie qui repose sur la révélation. Une théologie qui repose sur la révélation du Christ. Ça, c'est la grandeur de la théologie. C'est que, de fait, elle nous donne tout de suite un contact avec Dieu. Vous voyez, on retrouve Parménide. C'est pour ça que chez Heidegger, qui reprend Parménide, au fond, sa philosophie est une théologie. Une théologie négative. Une théologie moderne, négative. C'est pas une vraie théologie chrétienne. C'est la théologie du Nouvel Âge. Elle est poétique. On attend Dieu. On l'attend. On peut rien dire de lui. On l'attend. On le nie pas. Mais on n'affirme pas non plus qu'il faut le contempler. Il faut l'adorer, on l'attend. C'est ça ce qu'il y a de plus grand dans Heidegger, c'est l'attente. Et vous voyez qu'après la foi, c'est assez lamentable. Et c'est les succès d'année de Hegel, un succès d'année. C'est poétique. Et son invention est poétique, n'est pas philosophique. Alors, pour nous, parce que c'est ça qu'on doit regarder, si on a compris qu'il y avait chez Aristote une découverte géniale, que cette découverte géniale a été reprise par Thomas d'Aquin, le philosophe pour Thomas d'Aquin, c'est Aristote. Et Thomas d'Aquin ne fait pas une œuvre philosophique, proprement dite. Il fait œuvre de théologien. Pourquoi ? Parce qu'au Moyen Âge, l'univers, c'était les chrétiens. C'est sûr, il y a un phénomène très curieux, mais qui a existé, il faut le reconnaître. Le théologien parle pour les chrétiens. Ce qu'il y a de très nouveau dans le Concile Vatican II, c'est c'est pas du tout pour découvrir dans le monde un nouveau dogme, pour découvrir dans le monde une nouvelle vérité, pas du tout. C'est une œuvre de miséricorde et de charité fraternelle. Alors, c'est très vrai qu'il y a ça dans le Concile Vatican II. Et si on ne situe pas Vatican II dans la perspective de cette charité fraternelle et de la miséricorde, alors on ne comprend pas. Et on ne comprend plus. Et l'ouverture au monde réclame une philosophie. Autrement, vous vous laisserez prendre et intimider par le monde. Les chrétiens d'aujourd'hui sont intimidés par le monde et n'osent plus s'affirmer comme chrétiens. Ils se cachent. Ils prennent les catacombes eux-mêmes avant que ça n'arrive. Dans l'Apocalypse, ils se cachent dans la terre et dans les crevasses de la terre. Parce qu'ils ont peur. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de sécurité. Parce qu'ils n'ont pas de certitude. Parce qu'ils ne recherchent plus la vérité. Alors, il y a un petit ghetto. Ou bien, il y a l'inverse du ghetto. Celui qui se fait entièrement aux autres et qui prend le monde comme ce qui doit l'enseigner. Vous voyez, ce religieux disant j'ai deux maîtres, Saint Ignace et Freud. Ignace à droite, Freud à gauche, et j'ai deux maîtres. Des quantités de chrétiens aujourd'hui ont deux maîtres. Une certaine tradition chrétienne. Et puis, la science. Le monde de l'économie. Et pourquoi ont-ils ça? C'est parce qu'ils ne recherchent pas la vérité. Il ne peut pas y avoir de vérité. C'est impossible. Avoir deux vérités me conduit à la dichotomie la plus absolue qui soit. Et je ne peux pas vivre de ça. Je ne peux pas vivre de deux vérités. Il n'y a qu'une vérité. Pour le chrétien, c'est la vérité, c'est Jésus. Il n'y a pas deux Jésus. Il est un Jésus. Il n'y a qu'un être dans le Christ. Vous voyez ? C'est ça que la question des deux essais du Christ est quelque chose de si important à réfuter. Les théologiens qui affirment deux essais dans le Christ pratiquement maintiennent deux vérités. Il y a des niveaux de vérité, mais il n'y a pas deux vérités qui peuvent s'opposer. La foi ne s'opposera jamais à la vérité. Et la foi ne peut pas s'opposer à la vérité. Il peut y avoir des vérités qui ne sont pas des vérités. Au point de vue rhétorique, au point de vue propagande. La grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. On n'a jamais vu une grenouille grosse comme un bœuf. Et la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf, c'est les petites vérités scientifiques qui se gonflent, et qui veulent être aussi fortes que la vérité de la foi. La vérité de la foi, c'est la lumière divine. Les vérités humaines, mathématiques, scientifiques, sont des petites vérités à côté de la foi. Et quelquefois, la grenouille veut devenir aussi grosse que le bœuf. Alors, avant qu'elle éclate, on dit « elle est bœuf ». Et elle est parallèle. Il faut comprendre cela, parce que si on ne comprend pas ça, on sera tous séduits. On fait des compromis. On dit, vous êtes de son temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus n'a jamais dit, vous êtes de son temps. Jamais, jamais. Le chrétien n'est plus de son temps. Il aime son temps, c'est tout à fait différent. Il aime les hommes qui sont dedans. Il les aime. Et pour eux, il se sacrifie. Il accepte de mourir pour eux. Il n'est pas de son temps. Il cherche la vérité. Et par la foi, j'ai cette vérité merveilleuse qui m'est donnée. Et pour atteindre le pauvre monde qui se trouve dans les déviations, il doit aller jusqu'à la métaphysique, c'est-à-dire la recherche philosophique qui atteint son sommet, qui recherche ce qui est. Parce que justement, celui qui n'a pas découvert le Christ, il existe. Celui qui a découvert le Christ, il existe. L'œcuménisme fondamental, c'est l'être. C'est le seul œcuménisme fondamental, c'est l'être. Mais on saisit l'être analogiquement dans la diversité. Radicalement, il y a celui qui refuse Dieu et celui qui accepte Dieu. Vous savez, c'est la plus grande des diversités. Tout à comparativement à cette diversité-là, toutes les autres, c'est des dentelles. Tandis que ça, c'est une diversité radicale. L'homme qui refuse Dieu, c'est l'homme qui, de fait, se gonfle sans le savoir, comme la grenouille. Une humanité qui quitte Dieu, elle se gonfle comme la grenouille. Et elle ne peut qu'éclater. Il n'y a pas d'autre finalité. Parce qu'elle a refusé la vraie finalité. Alors voyez l'importance de la métaphysique. Saisir ce qu'il y a de commun entre celui qui nie Dieu et celui qui l'affirme. Si je n'ai pas la métaphysique, je n'ai plus de contact avec l'athée. Or, si on n'a plus de contact, on n'a plus de dialogue. C'est bien ça. On s'enferme dans son ghetto. Ou on oublie la tradition et on se met à l'école de la science, de tout ce qui est moderne. Mais c'est l'importance et l'intérêt merveilleux de notre monde d'aujourd'hui, ça. C'est qu'on en arrive là. L'opposition la plus radicale qui existe dans l'homme, c'est celui qui reconnaît l'existence de Dieu et qui l'adore. Donc celui qui adore et celui qui refuse l'adoration pour s'exalter, consciemment ou inconsciemment, ça, c'est pas moi qui peux juger. La conscience de l'athée, Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Mais je peux dire, ce que vous affirmez est faux. Et on doit le dire. Si on ne le dit pas, si on n'a pas le courage de le dire, on ment à Dieu. C'est terrible. Et on ment à l'humanité. Mais la croisade d'aujourd'hui n'est plus la croisade de chercher le tombeau, de libérer le tombeau du Christ. La croisade d'aujourd'hui, c'est libérer l'homme des idéologies athées, qui sont le carcan le plus terrible dans lequel l'humanité se trouve. Et le pauvre homme qui ne peut pas travailler sa philosophie parce qu'il faut qu'il gagne sa croûte, et qui n'a pas reçu les capacités, attend de ceux qui, eux, ont découvert Dieu, qui soient des témoins, qui rappellent que c'est quelque chose de terrible. Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, on est prophète comme Jean-Baptiste de l'annonce du retour du Christ. C'est-à-dire, si je suis attentif à l'Apocalypse, je vois que le retour du Christ, le jugement dernier, c'est le discernement entre Babylone et Jérusalem, la Jérusalem nouvelle. C'est le discernement entre les deux. Et c'est l'homme qui se trouve entre les deux. Donc, le jugement dernier, c'est libérer l'homme libérer l'homme des idéologies athées. C'est libérer l'homme de cette laïcité terrible qui l'empoigne et le remet dans la vérité. Pour qu'il puisse aimer Dieu. Pour qu'il puisse reconnaître le Sauveur. Or, quel est le point de contact entre l'idéologue athée et celui qui reconnaît l'existence de Dieu? Au point de vue de la finalité, c'est l'opposition la plus totale. Donc aucun contact. Position radicale. Le seul point de contact, c'est que cet homme existe. Que cet homme est une créature. Il ne sait pas, mais une créature de Dieu. Et que celui qui adore reconnaît qu'il est une créature de Dieu. D'un côté ténèbres, de l'autre côté lumière. Mais contact entre les deux, puisque les deux existent. Et donc si je veux entrer dans la forteresse de l'idéologie athée, il n'y a qu'une seule porte par le point de vue de l'être. C'est là où on voit pourquoi l'Église maintient à tout prix la métaphysique, la philosophie première. C'est pas du tout parce que c'est une tradition, c'est faux. Elle le maintient parce que c'est le seul contact qu'on peut avoir avec l'homme athée. Alors, évidemment, vous n'allez pas faire un cours de métaphysique à l'homme athée. Mais si vous avez le sens de la métaphysique, vous comprendrez tout de suite comment vous pouvez le toucher, comment vous pouvez l'atteindre. Vous allez me dire, c'est l'homme. Ah non, c'est pas l'anthropologie. L'anthropologie de l'athée est totalement différente de l'anthropologie du chrétien. Mais totalement différente. Donc c'est pas par l'anthropologie. Par l'anthropologie, vous lutterez, vous bataillerez. Et vous ne vous comprendrez pas. C'est en bataille de soupe. Quel est le point de contact? Il n'y a que celui-là. Cherchez, moi j'aimerais savoir comment vous attirez votre point de contact. Et en montrant ça, je vous montre le caractère nécessaire de la métaphysique, de la philosophie première, pour l'apôtre. Et pour la contemplative qui doit prier pour l'humanité d'aujourd'hui. C'est très curieux ça. Alors je comprends que si vraiment il y a ça, le seul grand théologien qui peut résoudre les problèmes actuels, il n'y a que Thomas d'Aquin. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez, vous perdez votre temps en prenant d'autres maîtres. Je crois qu'il faut avoir un regard d'une netteté là-dessus. Et il faut y revenir souvent, parce qu'on s'égare et on perd son temps. Alors, il ne faut pas que tout le monde, on n'est pas des métaphysiciens, mais la métaphysique est une chose naturelle. Les mathématiques, ce n'est pas une chose naturelle. Tandis que la métaphysique est une chose naturelle. La science n'est pas naturelle.